Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max, on en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Et comme dit la petite coquine d'Audrey, c'est sur YouTube.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h45. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. Joyeuse fête à Boulevard 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
C'est un plaisir de jaser ce soir avec Pierre-Yves Laure, animateur de plusieurs choses. Il était à la radio pendant des années. Je pense qu'il a commencé ça très tôt, il saura me le dire dans les prochaines années. Il est animateur de télé aussi pendant de nombreuses années. Il est avec nous. Salut, P.Y.
Salut, Yannick. Merci de me recevoir et de t'intéresser à mes bébelles. Très content de parler avec vos auditeurs aussi. Bonsoir.
Bon, faut pas semblant qu'on se connaît pas. J'ai joué au hockey avec toi. T'es tout un joueur de hockey. Je trouvais que tu manquais un peu de patins, mais t'as le cœur gros comme le Centre Bell, mon ami.
Ah, je manque pas juste de patins. Je manque de talent, je manque d'expérience, je manque de mains. Mais, tu sais, c'est... J'essaie de compenser avec ce que j'ai, puis je me donne. Mais on s'est connus, je pense qu'on jouait à Sillery.
À Sillery, oui. Vieille arena de Sillery,
ouais. Ah oui, l'aréna Jean Côté, d'ailleurs, qu'on voit sur les pochettes de Bob Bissonnette, là, tu sais, je pense qu'il y a une pochette d'album. Les murs étaient très reconnaissables dans cette aréna-là. Probablement une des plus belles glaces de la région de Québec, puis des chambres qui sentaient vraiment le hockey là, old school, là, les As de Québec. Genre.
Non, c'était le fun. J'ai visité un bel amphithéâtre en fin de semaine. Mon plus vieux, il était en tournoi à Rimouski, puis on était dans l'amphithéâtre de l'Océanique de Rimouski. Puis j'ai reconnu la famille Tanguay là, au travers de cet amphithéâtre-là. Là, un amphithéâtre multifonctionnel, beau comme pas possible, propre, bien organisé. L'histoire de l'Océanique de Rimouski qui est bien affichée. Les anciens joueurs qui ont passé là, Sidney Crosby, bien sûr, la Frenière qui évolue chez les Rangers de New York.
Le cavalier a joué là aussi, si peux-tu?
Je pense que oui.
Le cavalier puis Richard.
Brad Richard, ben oui.
Ouais, faudrait checker sur HockeyDB, mais il me semble que oui. Puis oui, ça donne des frissons pour les amateurs de sport. Je pense que ça fait autant partie de l'expérience que ce qui se passe sur la glace, sur le terrain, de vivre une belle expérience d'amphithéâtre. Tu sais, quand tu vas voir du baseball, tu mets les pieds genre au Wrigley Field. Ouais. De même, tu sais, l'histoire parle. Juste le stade municipal à Québec, tu sais, ça... Les murs te parlent quand tu mets le pied dans ces buildings-là.
Ouais, ben moi, j'ai grandi dans ce secteur-là du stade municipal, puis moi, j'y allais quand il était désaffecté. Là. Il y avait nous autres qui jouaient au baseball sur un terrain qui n'était pas du tout adéquat, puis il y avait les pigeons qui se promenaient là, quelque part dans la toiture du stade. Mais oui, c'est des endroits qui sont remplis d'histoire. Mais on a beaucoup d'endroits, que ce soit à Montréal ou à Québec, là, où il y a de l'histoire, puis c'est bien conservé. C'est plate que l'ancien forum n'ait pas été conservé là, dans le secteur de Montréal. Mais nous, à Québec, le Colisée Pepsi s'en va, là, il va être démoli. Ouais.
Hey, mon Dieu, l'entrée nord-ouest là-bas, là, tu sais, quand t'avais,
les joueurs
de hockey, quand t'avais la chance de recevoir des billets de faveur ou je sais pas trop quoi, puis c'est comme l'espèce de porte où, tu sais, il y avait la guérite de sécurité, tu fais croiser les joueurs, l'entrée des artistes était là. Tu sais, quand t'avais d'affaires au Colisée, t'étais convoqué à la porte nord-ouest. J'ai des souvenirs. T'sais, les endroits où les caméras de télé étaient installées. Ouais. Moi, dans le temps, avec la radio, là, on faisait les minutes énergie puis ces affaires-là. Fait que, des T-shirts, des casquettes, des rafales puis de la jungle, j'en ai pitché au Colisée. Là. Les concours d'habileté entre les périodes, là, pis les shows du Rafale Band. Fait que j'ai eu la chance de vivre un peu les entrailles du vieux Colisée, les games de mini-hockey pendant les Pee-wee. C'est des souvenirs que j'oublierai jamais, les bannières qu'il y avait au plafond, celles de Jean Béliveau, les Bulldogs de Québec, Joe Malone, Marc Tardif, c'est des noms que je voyais. Puis oui, c'est le fun de les voir au plafond du Centre Vidéotron, mais ticu, là, t'sais, de voir Guy Lafleur a joué ici, wow, les remparts, la Coupe Memorial dans les années 70. Wow, l'histoire me donnait des frissons à chaque fois que je mettais les pieds là-bas aussi.
Ouais, j'étais très jeune pour ce qui est du forum à Montréal, là, mais je me souviens d'avoir vu une carte de lutte avec mon père qui nous avait apporté là à l'époque. Je me souviens d'avoir vu une game d'hockey, ça devait être les Canadiens à l'époque. Mais oui, il y a tellement des beaux endroits là, qui nous font revivre la nostalgie d'antan. On sonne un peu vieux bonhomme.
Ouais, mais c'est important, la nostalgie, puis à un moment donné, c'est tout ce qui nous reste. Tu sais, pas que je suis pas tourné vers l'avenir, mais tu sais, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants, quand on va être sur notre lit de mort ou dans nos derniers moments, qu'est-ce qu'on va retenir, tu sais, où on a terminé dans Division Adams en 1986 peut-être, mais tous ces souvenirs-là, à un moment donné, ils deviennent précieux avec le temps. C'est ton enfance, ces souvenirs-là, ils forgent la personne que tu deviens. Tu sais, quand on est en fin de vie, est-ce qu'on se souvient de notre T4 de l'année 2003?
Pas du tout.
Ou des souvenirs de famille, d'amis, les visites, les endroits marquants qui ont nourri nos passions? Fait que je me sens pas vieillot, puis surtout dans un monde qui est numérique, puis un monde qui se digitalise, puis qui s'intelligence artificialise de plus en plus, ben on dirait que moi, l'effet inverse que ça a sur moi, c'est d'amplifier ma nostalgie, je dirais tactile, mes vieilles photos, mes vieux VHS, mes vieilles coupures de journaux, mes vieux souvenirs old school des Nordiques, puis tout ça. Tu sais, je voyais l'autre jour l'avalanche avec l'uniforme, les émotions que ça m'a donné,
ben oui.
L'allégeance que ça a fait ressurgir en moi. J'étais comme, hey, je prends pour qui, voilà, là, t'as peur, là, wow! Fait que je suis pas... oui, vieillot, mais je considère ça un peu comme une fierté de sonner vieux bonhomme sur certaines affaires.
Je sais pas si t'es sur Twitter, mais hier, le journaliste François Gagnon de Radio de RDS a écrit un tweet, puis il a mentionné « Tout est en place pour le retour des Nordiques à Montréal. Geoff Molson et Joe Sakic attendent seulement le feu vert de la Ligue nationale de hockey pour que le CH soit en rouge ce soir-là et qu'il affronte l'Avalanche du Colorado. » Qui, eux, sont en bleu nordique.
Wow.
Ça serait le 26 janvier.
Wow! C'est de toute beauté. Moi, je pense que je veux être là, je veux vivre ça. Des années extraordinaires. Puis, c'est drôle, on dirait que dans la foulée du dernier match qu'on a vu, au Colorado, ça m'a donné le goût de replonger un peu dans l'histoire des Nordiques. J'ai un vieux DVD, là, les Nordiques, c'est notre histoire. Ça raconte le groupe des six, ça raconte comment ils ont fait leur entrée dans l'AMH, comment ils ont payé la franchise, les premières offres qui ont été faites à Guy Lafleur pour essayer de l'attirer à l'époque, quand ils sont allés chercher Jean-Claude Tremblay, après ça, comment Richard Brodeur, qui n'a pas reçu peut-être la reconnaissance qui méritait, Buddy Cloutier, des saisons à 60-70 goals, Christian Bordelot et tout, j'étais comme « Wow, mais quelle histoire formidable !» Puis après ça, tu sais, l'arrivée de Marcel Aubu, les négociations, l'entrée dans la Ligue nationale, c'est écœurant l'histoire de ce club-là. Fait que, oui, mes souvenirs de Colin Panini, puis mes cartes au Peachy, puis Let's Go Owen Nolan, puis Mike Ritchie, mais l'histoire que je n'ai pas connue des Nordiques, dans le temps qu'ils jouaient en genre de blanc et rouge là, dans l'AMH, la Coupe Avco, l'agression de Sauvage sur Marc Tardif, cette histoire-là aussi me fait capoter.
Oui, oui. Ben, tu vois, là, je suis retourné sur le tweet de François Gagnon qui a été modifié. Là. Il a juste retiré la date. Mais okay. C'est toujours écrit, tout est en place pour le retour des Nordiques à Montréal. Geoff Molson et Joe Sakic attendent seulement le feu vert de la Ligue nationale de hockey en rouge pour le CH et l'Avalanche serait en bleu nordique. Si jamais c'est un match préparatoire puis qu'on a ça à Québec ou à Montréal, ce serait fantastique.
À l'époque, mais ça change au fil du temps, hein. Mais il me semble que dans les années où je suivais le plus ça, les Nordiques jouaient en blanc maison, en bleu sur la route, puis le Canadien jouait en blanc maison, puis en rouge sur la route, c'était ça, tu sais, milieu des années 80 à peu
pas.
Près.
Je me rappelle pas, je voudrais pas dire n'importe quoi. Okay. Pierre-Yves Laure, c'est un plaisir de te parler ce soir. Tu as commencé ta carrière à la radio très jeune, tu as commencé à 16, 17, 18 ans dans ces eaux-là, toi.
Ouais. Au début, mon rêve était clair, tu sais, j'avais envie d'en faire, je disais à mes amis au secondaire, « Hey, un jour, vous allez vous lever le matin, vous allez m'entendre en radio. » J'allais rôder des fois sur l'espèce de rempart, les petits murets à côté de la station Chic 99, puis là, je voyais le studio tout illuminé la nuit, puis tu sais, je rêvais. Fait que ma façon de me rapprocher du milieu, ça a été d'essayer de rentrer dans un disco mobile, après ça dans l'équipe d'animation. J'ai fait un cours, toi aussi d'ailleurs, au Collège Radio-Télévision de Québec. Fait que ça a été ça. Puis ouais, vers 17-18 ans, là, j'ai commencé comme géo à faire des petits reportages en ondes, puis à animer mes premières nuits, je pense, ouais, à 18-19 ans, de 3h à 6h du matin après les DJ live en direct du mondial.
Ouais, c'était l'enfer. Monsieur, c'est pas
j'ouvrais
monsieur,
les lignes.
ouais, c'est pas monsieur Sasseville aussi qui était à la radio le soir, puis je pense à minuit, là, il y avait un animateur qui était là, puis il te parlait là, jusqu'aux petites heures du matin. Il était de mémoire, il était à Énergie Montréal.
Ça se peut très bien, ouais, Jean Sasseville. Puis en tout cas, c'était des belles années. En fait, ce que je retiens de ces années-là, c'est qu'il y avait de la place, en tout cas, pour de l'expérimentation. Le regretté Dan Plante, qui était mon boss à l'époque, nous laissait l'opportunité d'être en onde à une heure où il y a moins de risques, de 3h à 6h du matin, tu travailles avec les travailleurs de nuit, les gens qui rentrent de veillée, puis tout ça. Fait que j'ai pu faire mes classes là. Puis il y avait aussi tout l'aspect mise en onde qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire que maintenant tout est informatisé, la musique, puis ce sont des genres de pilotes automatiques qui assurent la mise en onde des stations de radio, alors qu'à l'époque c'était vraiment des supports physiques, tu manipulais tes CD, des bobines, des cartouches. Fait il y avait une approche très tactile et très physique qui moi m'intéressait beaucoup, une grosse console McCurdy, là, tu sais, chaude, là. Fait que fait que pour des tripeux de radio, puis je suis convaincu qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment. Des geeks de bébelles, que t'aimes brancher un système de son, le démonter, que tu tripes sur des speakers, des bons mixeurs, ben, pour moi, c'est la même affaire en radio. Je tripais autant sur l'idée de pouvoir m'exprimer puis de vivre ma passion de communicateur, mais aussi le côté technique à tout ça me faisait autant vibrer. T'sais.
Ouais. T'as tout le temps été créatif à la radio. T'as tout le temps été proche aussi de tes auditeurs. Moi, je te voyais passer, j'étais dans les bars, puis bon, ben, t'étais invité à venir faire la promotion dans les bars aussi. Je te voyais passer quand il y avait des matchs qui étaient présentés au Colisée à Québec, on te voyait passer. Est-ce que tu considères que dans le temps, la radio était beaucoup plus près des gens? On faisait vraiment de la radio locale, que ce soit à Montréal ou à Québec. On était plus proche du monde en majorité, les animateurs. Puis les animatrices.
C'est incroyable. C'est un point que tu touches que je trouve essentiel puis qui définit vraiment la radio à Québec, puis la proximité qu'elle avait avec le monde. Puis on ne l'a pas inventé, des années 70, CFLS, les années 80, le 93, Énergie, l'époque glorieuse de Choix FM, CJRP, Weekend, Boulevard. C'est des radios qui. Proche du monde, il y avait quelque chose de communautaire. Tu gagnais des sondages en étant autant sur le terrain, en organisant des parties, des événements dans les bars. Les ouvertures de terrasses, la radio faisait bouger le monde. Tu n'avais pas d'algorithme pour te dire où aller veiller. Tu n'avais pas de Tinder pour te dire qui sont les célibataires dans un rayon de 3 km. Fallait que tu sortes. Puis la radio avait ce pouvoir de traction-là, puis pouvait te guider non seulement pour la musique, les informations, mais aussi sur où est-ce que ça se passe en ville. Fait que si on disait, hey, ce soir, il y a un party à Girard, ce soir, il y a un party au Louis-Joliette ou au Monkey, peu importe la radio, ben, les gens y allaient. Fait que comme animateur, ben, tu étais un peu représentant de ta station,
Ouais.
tu avais une certaine fierté à porter le code, tu
Ouais.
serrais des mains, tu rencontrais le monde, après ça, ces gens-là te suivaient en onde. Fait que tu rencontrais, moi, d'un point de vue personnel aussi, ça m'a sorti d'une certaine forme de gêne. Mais là, tu rencontres les représentants Molson, les gens du Journal de Québec, les propriétaires, puis les acteurs importants en restauration, les agents de pub, puis tout. Fait que c'était comme, ah, OK, je sors de ma bulle, puis je deviens un citoyen actif parce que la radio a un impact sur le monde. Fait que oui, tu as tout à fait raison. Je pense que la radio était vraiment plus proche du monde. On côtoyait nos auditeurs avec des opérations de charme, des opérations publiques. Puis moi, je me suis vraiment éclaté dans cet aspect de la
Ouais.
radio-là.
T'as-tu l'impression que c'est encore comme ça dans les petites villes? T'sais, Montréal aussi a été longtemps comme ça. Je me souviens de Jacques Fabi, là. T'sais, tous ceux qui travaillaient de soir et de nuit écoutaient Jacques Fabi à la radio, les lignes ouvertes et tout. Il y avait des personnages qui appelaient dans les lignes ouvertes, mais quand même, on sentait que Jacques Fabi était proche du monde. Il y avait d'autres personnages. Comment il s'appelait le monsieur qui était à la
Harold?
radio? Ça, c'était un personnage qui appelait Jacques Fabi. Harold est encore en vie, Harold
Ben
la
oui.
Pocatière. Mais il y en a un qui disait, ça, c'est pas ton bague. Non, monsieur, non, madame, ça, c'est pas votre bague. Comment il s'appelait, lui? Roger Drolet, ça se peut-tu?
Ah oui, Roger Drolet,
Il y
en a
avait
fait
Roger
beaucoup.
Drolet,
Il
il
y
y
a
avait.
Monsieur Pelletier, je pense, qui remplaçait Monsieur Fabi. Des fois,
Oui.
il faisait le quiz pour se gagner un livre aux éditions de l'Homme.
Lui était en Floride.
Il y avait à CJRP, hey, Joe Hardy. Moi, j'ai
Ben
trippé
oui,
sur
Joe.
Joe Hardy. Les Canucks all the way! Puis, puis tu sais, il y a ça aussi, on appelait, tu sais, au secondaire, on appelait des lignes ouvertes, Marc Simoneau, tout, puis on tripait juste à avoir la ligne pour dire n'importe quoi, là, tu sais, on était surpris d'avoir la ligne. Oui, on parle à Pierre-Yves, allô,
Mais il y avait une proximité. Même le Doc Mailloux avait une certaine proximité avec son auditoire. Tu sais,
trois.
Doc Mailloux, tu l'aimais ou tu ne l'aimais pas, mais tu sentais qu'il était là puis qu'il aimait ça jaser avec le monde. Des fois, j'ai l'impression que la radio, qu'elle soit montréalaise ou à Québec, des fois, les animateurs et les animatrices ont tendance à oublier qu'on parle avec du vrai monde. On parle pas entre nous autres, on parle avec le monde.
Exact. On parle. On dirait qu'il y a eu une période où, puis là, je sais pas, la compétition, on parle, tu sais, dans un briefing, on se fait parler de parts de marché. Hey, vous parlez à des parts de marché, oubliez pas que notre auditeur cible, puis là, la démographie, oubliez pas, hey, c'est important de scorer fort dans le 18-34. Hey, là, il faut faire des gains dans le 25-45, dans le 25-54. Hey, wow, on fait pas de la radio pour des. Bien sûr, oui, on fait de la radio pour des chiffres, parce que sans vente publicitaire, il n'y en a pas de radio, puis tu n'as pas de salaire. Mais l'humain, parler au. Tu sais, être proche de ton monde, c'est un feeling qui est indescriptible. Puis j'ai travaillé le matin pendant quelques années à Énergie. Puis physiquement, j'ai trouvé que c'était l'émission la plus difficile à faire, animer un morning show. Mais en même temps, c'est une expérience radiophonique, je trouve, incomparable. T'es tellement. Il y a une fusion, puis il y a une proximité avec les auditeurs. Qui est malade de nuit aussi. Puis je sais pas si j'ai retrouvé ce genre de feeling-là dans tous les autres projets que j'ai fait, peu importe le type de plateforme. Fait que tu sais, j'ai détesté ça en termes d'horaire, mais en termes de proximité avec ton monde, de sentir que tu les réveilles, qu'il y en a que, ping, à 6h24, leur cadran ouvre, puis que tu deviens l'espèce de repère dans leur journée. S'ils sont rendus à telle lumière, puis que t'es pas en train de parler de telle affaire, ben ils sont comme un peu, oh mon Dieu, je suis en retard. Fait que ça devient l'espèce d'accompagnement temporel, puis d'horloge de la vie des gens, puis de leur routine année après année. Pour moi, c'est l'expression de la proximité avec l'auditoire ultime.
C'est quoi tes moments, que ce soit à Montréal ou à Québec, c'est quoi tes moments les plus forts à la radio qui t'ont vraiment fait triper? Ou encore des moments où tes patrons t'ont dit Pierre-Yves-Laure, t'as peut-être été un peu trop loin sur celle-là. Parce qu'on m'a toujours décrit, Alain, qui était au collège, qui était le directeur du collège, me disait PY, là, c'est un des gars les plus rapides au niveau des réflexions et tout ça. Mais des fois, ils patentent des stunts en 5 secondes qui peuvent vraiment super bien virer ou vraiment mal virer.
Ouais. Ah oui, ouais, j'avais. J'étais assez. Comment dire. Un peu cow-boy des fois dans ma façon de vouloir essayer des choses.
Ouais. T'as
Puis,
pas fait de la plongée sous-marine à un moment donné, t'as
ouais.
enregistré une émission de radio en plongée
Exact.
sous-marine? Ouais.
Ouais. Je sais que le Zoo l'avait fait à l'époque. Nous, on
Ouais.
l'a fait en piscine. On l'a fait sous la glace du lac Beauport aussi, en plongée sous glace.
Wow.
Il devait faire moins 18 cette journée-là, dans un gros kit de scaphandre. C'était extraordinaire. Je me souviens d'un stunt qu'on faisait le matin à Énergie, ça s'appelait le réveil brutal. Tu sais, on demandait aux auditeurs de réveiller brutalement quelqu'un. Puis dès que la personne était comme réveillée, notre complice, il passait le téléphone, fait que la personne se retrouvait en onde comme Hey, wow, hey, Chris, tu viens de me faire un saut, puis là, il faut que je parle avec un animateur, wow, tu sais. Puis ça a comme pris des proportions avec le temps où à un moment donné, il y a un gars qui est rentré un motocross dans la chambre de son voisin avec la complicité de sa blonde. T'sais, les gens commençaient à faire des affaires pas possibles. Il y a un gars qui est rentré dans la chambre, sa femme dormait, il a plugué une guite. Il a commencé à faire un gros désaccord de tout DC, tu sais, ou Black Sabbath, je sais plus trop. Sa femme est en tabarnak. Hey, c'est quoi ton problème à matin? Fait que nous, on était comme en studio, puis on entendait la chicane de couple qui éclatait live. C'était débile, tu sais. Puis là, c'était quoi le prix? On faisait tirer genre un char pogné, ses annonces classées, un genre de vieux Tiburon avec un aileron tout patenté, une vieille patente. Fait quoi, ouais, on. Le Pinch of Love, c'est un beau souvenir aussi quand on avait.
Ça, vous avez embarqué des milliers de personnes. Toi, puis Dallaire, là, Martin Dallaire qui était à Weekend Radio, vous avez embarqué du monde là, dans le Pinch of Love. C'était hallucinant. Même les gens des autres stations de radio voulaient aller au Pinch of Love. Au Pinch of Love, là.
Ouais, on s'était dit, hey, laissons pousser nos moustaches, puis le seul prérequis pour pouvoir entrer, les garçons, vous devez porter une moustache et tout le monde doit être déguisé. Années 80, on a fait venir les Karma Chameleons, les bébés, vilains pingouins, The Box. Hey, la première année au DAG, je me souviens que le midi même du premier événement, tu sais, le matin, on est allé faire des tests de son au Dagobert avec Yann Latouche, puis tout, David Marcoux, puis là. On était comment, on va-tu avoir, je sais pas, 500, 600 personnes, on check ça. L'après-midi, le midi, le village des valeurs a appelé à la station pour dire hey, « arrêtez de nous envoyer du monde, on n'a plus rien qui fait années 80, là, ça suit. » Là, on fait « ok, il commence peut-être à se passer de quoi, on arrive sur Grande Allée vers 5 heures. » Man, c'était plein, il y avait du monde partout dans la rue, début du mois de mai, il faisait genre 20 degrés, 20, 22 degrés. Puis à un moment donné, je me souviens que pendant la soirée, Yann Latouche est rentré en dedans, pour me dire, on était sur le stage, puis il dit, hey, la police vient de barrer à Grande Allée. Genre, ils ont mis des barrières, genre du Concorde jusqu'au Saint-Hubert en bas. Toutes les bars sont pleins, tout le monde est déguisé, il y a à peu près 10 000 personnes.
Ouais.
C'était fou raide.
Ouais. C'était rassembleur, puis je pense qu'il y a beaucoup de podcasts qui existent, puis c'est bien. Moi, je suis un adepte des podcasts. J'adore la radio live, j'adore surtout la radio locale quand on travaille pour notre communauté. Mais il faut que la radio prenne conscience de l'impact qu'elle peut avoir dans sa population. Tu sais, il y a de ça deux semaines, moi, puis ouais, tu me connais, je ne suis pas un lutteur dans la vie. Là. Je ne m'intéresse plus à la lutte depuis les années 80. Mon dernier lutteur préféré, c'était Hulk Hogan, quand il se battait contre le géant ferré. Puis, je me suis dit...
WrestleMania.
Je me suis dit l'an passé, parce que je l'ai fait deux années en ligue, je me suis dit l'an passé, tiens, on va trouver avec Steve de la NSPW, qui est une ligue de lutte, là, une façon, on va faire un gala, puis on va inviter des auditeurs, puis on va être commandité, puis on va faire ça pour la Bouchée Généreuse, qui est un organisme qui nourrit des milliers et des milliers de familles à chaque semaine dans la grande région de Québec, dont 40% de ces milliers de personnes-là qui sont des enfants. Puis une fois que la soirée s'est terminée, puis ouais, là, une fois que j'ai eu le montant final qu'on redonnait à la Bouchée Généreuse, pour une des premières fois de ma vie, là, tu vas trouver ça un peu pathétique, là, mais en même temps, il faut que je sois transparent avec mes auditeurs, je me suis dit, hostie, j'ai servi à quelque chose.
Nice.
J'ai servi à ramasser de l'argent qui va servir à nourrir des gens. Puis ça, là, c'est palpable. Là. Cette émotion-là que tu ressens, là, c'est palpable. Fait que, tu sais, quand tu as fait le Pinch of Love, là, c'est de l'amour que vous avez distribué, là, c'est de la nostalgie. Vous avez fait une super belle soirée. L'énergie que tu ressens après avoir fait ces affaires-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a tout simplement pas de prix. On ne change pas la vie du monde. On peut les aider à ce qu'elle soit plus douce, du moins.
Ouais, puis c'est beau ce que tu dis parce que, tu sais, on pense souvent qu'on. Comment dire? T'sais, dans les médias, moi, je vois quelque chose de multidirectionnel, c'est-à-dire que, oui, tu offres ta parole, puis tes réflexions, puis les questions que tu poses pour générer des réflexions, des conversations, puis tu dis, bon, ben on offre une émission de radio, mais au bout du compte, tu te rends compte que finalement, tu ressors de là grandi parce que ce contact-là, il te nourrit autant que ce que tu donnes, puis il y a comme une espèce de roue sans fin qui se fait... T'offres quelque chose, mais les gens, en te redonnant le feedback puis en te nourrissant d'informations, c'est une roue qui tourne. Fait que, la radio se doit de rester proche puis de garder les mains dedans puis de rester proche des gens. Puis j'ai peur que ça s'efface un peu puis que ça se soit un peu dilué avec le temps parce que les grosses corporations maintenant gèrent peut-être plus des grilles que des émissions puis des mots, mais... Je peux pas dire que je suis optimiste par rapport à la radio en ce moment.
Ouais. T'sais, heureusement, il y a des propriétaires qui désirent rester le plus local possible. Ouais. Ça fait en sorte qu'on a un bel auditoire à qui on peut jaser. Fait que ça, on va dire un gros merci aux propriétaires. La télé est arrivée quand dans ta vie? Quand est-ce que tu t'es dit, tiens, moi, le petit cul de Québec, là, je veux aller faire de la télé. Puis ça va être la province de Québec maintenant qui va me voir en télé.
Ça s'est fait progressivement. J'ai fait des petites collaborations à un moment donné avec TVA Nouvelles. À un moment donné, j'ai fait un duplex. J'étais en studio à la radio, puis TVA m'avait interviewé pour un truc. Puis après ça, Serge Fortin à Montréal, qui dirigeait TVA Nouvelle, LCN, tout, m'a dit « Hey, Denis Lévesque commence à faire une émission, on est allé le chercher. » Et puis, il aimerait s'embarquer dans son équipe de débatteurs. Fait qu'une fois ou deux par semaine, j'allais dans un studio de TVA sur Miran à l'époque. Puis, je participais à des débats sur l'actualité avec Denis Lévesque puis d'autres gens qui étaient sur son panel. Ça a commencé comme ça. Après ça, à un moment donné, mon ami Kim Rusk, qui était elle aussi, qui est passée par le Collège Radio-Télévision de Québec, Alain Dufresne m'avait dit « Ah, j'ai une jeune, là, Kim Rusk, là, elle a dedans pas mal. Penses-tu que tu pourrais y faire une place? » Ou en tout cas, ce serait le fun si tu t'intéresses à ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a une belle drive. Fait que j'ai commencé à recevoir Kim dans mon émission qui venait faire des petites chroniques. Et quand il s'est retrouvé à Love Story, on m'a demandé d'aller parler de sa personnalité pour la défendre un peu. Puis je te dirais que ça a été peut-être un point marquant, un point tournant en tout cas pour moi, parce qu'après mon passage là, les patrons qui, quelques mois plus tard, de TQS m'ont dit « Hey, on aimait ça ce que tu as fait pour Kim à Love Story, ça tenterait-tu de l'animer l'an prochain? » J'ai dit « Hein? » Je trouve que...
c'est un beau step.
Ils disent « That escalated quickly ». Fait que là, ouais, laissez-moi y penser. C'est sûr que c'était oui, mais je voulais me laisser des erreurs un peu. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Boom, j'ai été propulsé dans TV le dimanche soir, live, 1 million de téléspectateurs, les galas du dimanche. Puis, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis après ça, ben.
Est-ce que tu réalisais que c'était gros à l'époque? Tu sais, que tu arrives dans une grosse, grosse machine ou un peu inconscient, tu te dis, je vais livrer ce que je peux livrer, puis advienne que pourra? Est-ce que tu avais du stress? Parce que quand tu dis ça a escaladé assez rapidement, ouais. Là, votre affaire, je pars de chroniqueur à animateur de cette émission-là. T'étais-tu conscient de l'impact que tu pouvais avoir en présentant ce genre d'émission-là?
Je pense que oui. En même temps, il y a une espèce d'insouciance, puis de naïveté, puis de fougue à la jeunesse qui est vraiment le fun, puis que je pense avoir encore un peu, mais je dois la travailler peut-être un petit peu plus. On dirait qu'avec le temps, des fois, on se met à évaluer les risques un peu plus, puis à overthinker les affaires. Fait que j'ai foncé, c'est une belle opportunité. Puis il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, il va en avoir d'autres après, puis relativiser les choses, c'est-à-dire, ah oui, c'est gros, mais en même temps, c'est petit. Je voyais l'autre jour un gardien de la Ligue nationale, je sais pas lequel, mais j'ai repartagé son truc. Il disait, hey, un journaliste qui demande comment tu fais pour garder ton calme dans des situations importantes, quand ça s'en va en prolongation ou un gros match. Il était comme, ben, moi, je fais juste me dire, hey, on va tous mourir anyway, c'est pas important, on s'en crisse, tout le monde va avoir oublié dans quelques centaines d'années, personne va penser à moi, je vais être dead et tout, on va tous mourir, je m'en crisse. Je trouve que ce mindset-là, il est tellement intéressant. Des fois, on a tellement tendance à se donner de l'importance puis à penser que les gens checkent nos médias sociaux, que les gens se soucient de ce qu'on pense. Tout le monde se crisse de moi, là, dans le sens que je suis comme, c'est pas... Oui, dans l'immédiat, si tu fais une bourde, si tu fais une gaffe... Si t'es pas préparé, ça va attirer l'attention. Mais fais ta job avec cœur. Je pense que les gens vont le sentir. Puis après ça, ben, y a personne. T'sais, avant qu'on en parle, y a personne qui se souvient de qui a gagné cette année-là à Love Story. Puis comment j'ai fait mes animations. Peut-être un vague souvenir, mais je suis convaincu qu'il y a personne qui pensait à ça en ce moment-là. Genre, hey, puis Wilder, Love Story, là, y a 16 ans. Non, avec la vie passe, on va tous mourir, puis à un moment donné, il faut relativiser les choses, mais ça n'empêche pas que j'ai envie d'être préparé, j'ai une forme de fierté à bien faire mon métier, j'aime bien être bien entouré, j'aime donner tout ce que je peux, je suis exigeant envers moi-même, envers ceux qui travaillent avec moi, puis j'ai le désir qu'on livre des projets bien ficelés, puis je veux toujours m'améliorer. Puis après ça, ben, qui même me suivent, les autres, tant pis.
Il n'y a pas grand scandale qui suit P.Y. Law. Je regardais, je pense que c'est hier ou avant-hier. Là, je sais que Guillaume Lemaitre-Vierge a décidé là, de dire que ce qu'il avait fait là, c'était pas fort là, et tout ça. Puis avec raison, c'est une maudite niaiserie. Puis il paye chèrement sa niaiserie. Il y en a qui vont dire, ben, c'est bon. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, c'est peut-être un peu trop sévère. Mais t'en as-tu déjà fait, toi, des bourdes qui ont fait en sorte qu'ils t'ont dit, hey, tu sais, P.Y., pour ce contrat-ci, on va passer?
Je pense pas que ce soit arrivé que j'ai perdu un mandat à cause d'un d'un élément principal ou de quelque chose que j'ai dit qui a pu froisser des gens, puis que, tu sais, que l'employeur dise, hey, man, on n'a pas le choix, ça va être. Mais on fait quand même. Je garde toujours ça en tête, d'essayer d'être respectueux de la pluralité des opinions, d'essayer de ne pas heurter les gens. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, si tu essaies de trop te lisser, puis de devenir. De devenir un people pleaser puis de vouloir plaire à tout le monde. Je pense que tu plais à personne aussi. C'est important de garder son unicité, ses convictions. Ça se peut qu'on ait des avis sur tout. Ça se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment d'avis. Puis dans le monde médiatique dans lequel on vit, on soit des fois, on se laisse emporter par une conversation puis qu'on parle un peu à travers notre chapeau. Ça arrive à tout le monde. Je pense pas avoir une capacité d'analyse puis de supérieure à la moyenne. Bien au contraire, j'essaie de me dire. Hey, oublie jamais que tu t'adresses à des gens qui sont vraiment plus brillants que toi, puis des experts sur plein de sujets, il y en a plein qui sont à l'écoute. Fais pas ton petit Joe connaissant parce que c'est un micro. Mais en même temps, des fois, on se laisse emporter, puis c'est important de communiquer avec conviction. Puis des fois, même si ça fait pas plaisir à tout le monde, je pense que c'est ça qui fait qu'on peut faire son chemin quand on n'est pas juste un parmi tant d'autres qui dit un peu rien à vouloir plaire à tous. Mais
C'est un autre
ça vient
monde.
avec des risques.
C'est un autre monde, puis ouais, mais quand on regarde des fois Hollywood, tu t'aperçois qu'il y a des acteurs qui ont comme sombré dans l'oubli, qui décident de faire des conneries qui n'ont pas de maudit bon sens pour dire « Hey, j'existe encore. » Y en a-tu des artistes dans le métier, sans nommer de nom, qui utilisent ce genre de stratégie-là au Québec pour se dire « Hey, j'existe encore, je suis encore capable de faire des contrats. » Puis de l'autre côté, dans ton cas à toi, tu t'organises comment pour qu'on t'oublie jamais?
C'est une bonne question. En fait, il y a eu une période dans ma vie où j'ai senti que c'était plus difficile de faire des choses à la télé qui me ressemblaient vraiment.
Il donnait
C'est à
tous tes
partir
contrats. Il donnait tous tes contrats à Bernard de Rome, c'est ça?
à Robert Guiscully.
Ouais.
Non, mais j'avais l'impression que je me faisais des fois aspirer dans des mandats qui représentaient pas nécessairement ce que je croyais être des forces pour moi. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à produire un peu puis à essayer de présenter mes propres projets, quitte à ce qu'il y en ait moins, mais que je fasse des choses que j'aime. Puis on dirait qu'au fil du temps, ça a été peut-être payant pour moi parce que au lieu d'être passif dans ma carrière, je me suis senti un peu plus proactif et plus agressif dans ma façon de présenter des idées puis de présenter des visions plutôt qu'attendre que le téléphone sonne chez nous. Je pense pas que ça arrive, ça, que les gens t'appellent à un moment donné. Hey, ça fait 3 ans qu'on l'a vu, on va l'appeler pour voir si ça. Tu sais, peut-être qu'il y en a, là, des gens qui ont une notoriété extraordinaire puis qui sont comme, tu sais, je veux dire, des Claude Legault, Charles Lafortune, Guy
Ouais.
Jodoin, tout ça, tu sais, Véro, tu sais, c'est des gens qui. Mais en même temps, ils ont travaillé pour avoir cette notoriété-là. Mais ce que je veux dire, c'est que. Moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. Fait que j'ai besoin d'amener mes idées pour générer du mouvement. Puis quand tu génères du mouvement, ben généralement, ça attire les regards puis tu restes sur la glace. Je me suis toujours dit, essaye de rester sur la glace, mais soit sur la glace dans une game que tu possèdes, que tu maîtrises et dans laquelle tu as du fun.
J'ai beaucoup de connaissances là, dans le milieu artistique, puis ce que je trouve triste à certains égards, c'est quand il y a des années où les contrats se font un peu plus rares, ces personnes-là ont de la difficulté à se trouver dans cette société-là, comme si ces gens-là considéraient que non, non, moi je suis juste artiste, mais je peux pas aller faire du travail de bureau, je peux pas aller travailler pour une boîte de communication. T'sais, mon métier à moi, c'est je suis comédien. Mais ces gens-là préfèrent des fois rester dans une grande pauvreté. Et ça, c'est d'une tristesse, là. Je regardais le salaire moyen des gens de l'Union des artistes. Ça tourne autour de 20 000 $. Puis, ouais, là, qui peut vivre à Montréal ou à Québec avec 20 000 $? Donc, ces gens-là préfèrent rester dans la pauvreté plutôt que d'aller faire un métier que monsieur et madame tout le monde peuvent faire. J'ai toujours l'impression que ces gens-là se déterminent de la mauvaise façon. Tu te détermines pas par ta carrière. Tu te détermines comme un individu, tu te détermines comme un père de famille, tu te détermines comme étant un conjoint aimant, une conjointe aimante, tu te détermines comme étant un bon individu. Mais les gens qui ont l'impression que si on les voit pas à télé, ils n'existent pas, je trouve ça triste, moi.
C'est intéressant ce que tu amènes. Ben, il y a aussi. Ben, c'est peut-être vrai, mais il y a peut-être aussi la perception que le public a de ces personnalités-là. J'ai entendu à un moment donné une artiste qui disait « Hey, à un moment donné, il va falloir normaliser le fait que la chanteuse que je suis ou l'artiste que je suis, que ça se pourrait que vous la croisiez à un moment donné en train de servir des assiettes au restaurant et que vous ne soyez pas choqué et que vous ne soyez pas en train de la stigmatiser. « Hein, mon Dieu, t'as-tu vu, nanana, à travail là? » »« Ben oui, faut que je gagne ma vie. Je fais du bar, nanana, je fais du design graphique, je fais ça. » C'est pas... T'sais, fait que oui, peut-être que pour l'artiste, d'avoir vécu dans l'œil du public, c'est difficile à un moment donné. Et c'est peut-être un exercice d'humilité de faire « Hey, au niveau artistique, ça marche moins bien. » Fait que oui, je fais des jobs. Mais je pense que comme public, on a un devoir aussi de ne pas en faire un cas quand on voit que quelqu'un qu'on croyait... T'sais, on a peut-être un peu idéalisé ou peut-être qu'on met les gens qu'on voyait dans la petite boîte qu'on entendait, c'est comme hey, mais non, ce sont des gens normaux, fait qu'acceptons qu'ils puissent avoir des jobs courantes, ouais. Et qu'ils soient pas toujours magnifiés ou dans l'extravagance du show business.
Mais tu sais, à certains égards, ça doit être dur pour l'ego, tu sais. Puis je peux me permettre d'en jaser, puisque je l'ai eu en entrevue, mais Paul Sarrazin, tu sais, quand il a fait Jeans Bleu sur la plage, quelque chose du genre, là, ça a été une catastrophe. Ouais. Ça a été la fin de sa carrière médiatique, là. Après ça, lui, il n'y a plus personne qui l'appelait. Ouais, c'est ça. Ça ressemblait à Brume de ta bouche d'Éric Lapointe, mais au moins, Éric Lapointe, il a réussi à refaire des albums par la suite. Je pense au gars qui animait. Tu te souviens-tu de l'émission Coup de foudre quand on était jeune?
Yves Gionnet.
Yves Gionnet. Ben, Yves Gionnet, quand Coup de foudre a terminé, là, il n'y a pas eu d'autres appels. Là. Donc, Yves Gionnet, ce qu'il est allé faire, puis je ne sais pas s'il est encore là ou s'il est à la retraite aujourd'hui, mais il est devenu chariste chez Molson. Donc, okay. Il travaillait dans l'entrepôt Molson, puis il classait des caisses de bière. Ça a dû être raide en tabarouette, là.
Ouais. Ouais, puis... Mais en même temps, c'est ça, tu sais, je m'imagine... Tu sais, c'est bien correct. Il a continué à gagner sa vie, puis tout, ouais. Mais tu vois, je me dis, là, si lui est dans son char en ce moment, qu'il nous entend, tu sais, ça... Je pense qu'on a comme... je parle pas juste de toi puis moi, mais on a, collectivement, on est peut-être un peu coupable de ça parce que, tu sais, je veux dire, on parle de lui puis c'est comme si c'était un pas en arrière.
Ben non.
C'est comme si ça avait été une rétrogradation de vie, je pense pas.
Faut que tu gagnes ta vie.
On fait notre chemin puis ah oui. On n'a pas de Minecraft dans la vie, je pense. En tout cas, ben peut-être qu'à l'époque, c'était plus ça. Tu sais, je me souviens de mon oncle qui a travaillé à l'hydro toute sa carrière, mon père qui a toujours été, qui a été ingénieur, ou tu sais, des carrières comme enseignant, ou tu sais, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Je veux être ça, je vais faire ça toute ma vie. Mais quand tu es dans les médias ou dans la culture en général, dans le divertissement, ben faut que tu acceptes que ça part, ça vient, ça repart, ça revient. Fait que, tu sais, arrêtons de toujours mettre le spotlight, puis tu sais, comme Gabriel des Trois Maisons en entrevue. « Hey, ouais, dans le temps, ça marchait, hein, ça... » Je trouve que c'est mettre beaucoup de... C'est comme... Ça, on contribue à flageller les artistes qu'on voit moins, comme si c'était mal ou comme s'ils avaient échoué. C'est plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, on voit la personne un peu moins, puis c'est pas grave si elle continue à vivre sa vie.
Parfaitement d'accord, parfaitement d'accord. Et c'est quoi les gros contrats qu'on t'a confiés que tu t'es dit, de un, jamais je penserais faire ce type de contrat-là, puis de deux, un contrat qui était extrêmement intéressant pour toi. Les gros galas que t'as animés, est-ce que c'était quelque chose de stressant pour toi devant tes propres pairs, donc des gens de la communauté?
Ouais, c'était le fun. Le gala des Gémeaux, des prix Gémeaux, je l'ai fait 2 ans. Et puis c'était, mon Dieu, c'est des gros bateaux. Des grosses équipes, un travail en amont, tu travailles des mois et des mois en brainstorm, en écriture de texte, en répétition. Tu pars de rien, tu pars de premier meeting où tout le monde apprend à se connaître sur Zoom à finalement faire un show à grand déploiement devant tout le Québec où tout le gratin est là, où tu récompenses la télévision. Puis moi, comme gars de télé, je trouve ça le fun de pouvoir parler de mon industrie. Puis de... Mais t'as raison, devant ses pairs, là, tu sais, je me souviens, la première année que je l'ai fait, tu sais, première rangée... des Marina Orsini, des Charles Lafortune, Patrick Huard qui était là, Xavier Dolan, Julie Le Breton, tout ça. J'étais comme « wow! »
Parce que ces gens-là, c'est toi qui écoutes à cette heure-là. Toi, t'es...
Louis Morissette, Véro, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Puis encore là, ça prend une forme d'insouciance. T'sais, oui, on peut... on peut penser que c'est gros, puis à un moment donné, il ne faut pas se laisser emporter par ça quand tu es dedans, de dire hey, pour vrai, je vais faire mon possible, puis je vais m'amuser, puis j'ai besoin d'être celui qui va avoir le plus de fun dans place, sinon comment tu veux que les gens en aient dans la salle, puis qu'ils en aient ultimement à la maison. Fait que... Mais oui, les Gémeaux, la fête nationale aussi, c'est une grosse affaire. Je l'ai fait 3 ans, je pense, au Parc Maisonneuve et au quartier des spectacles à Montréal, tu sais, 600 000 personnes. Pour moi, c'était significatif. Je l'ai fait. J'ai vécu la Saint-Jean, c'est plein à Québec au début des années 90, dans le temps de l'échec de Meech, puis tout. Où, il y avait comme une ferveur, puis une espèce de clameur dans la foule. Puis c'était des fêtes qui avaient une saveur peut-être un petit peu plus politique à l'époque, avec Michel Rivard, Gilles Vigneault, Charlebois, tout ça. C'était... Mais, fait que oui, de pouvoir, devant tout le Québec, parler de ta fierté d'être Québécois puis de mettre la lumière sur des artistes. Je te dirais que c'est des grosses affaires qui, en termes de ben, d'exposure puis de d'intensité scénique, sont trippants. Puis je me suis nourri, mais j'ai fait des petits projets, ben, des projets qui ont peut-être moins de... Qui rayonnent moins, mais qui m'ont nourri tout autant. Okay. J'ai fait une série documentaire Bulletin spatial, où je parle de l'exploration spatiale. J'ai fait une série à TV5 de plongée sous-marine, les flots.
Ouais. C'était formidable, d'ailleurs.
Un truc de rap. Fait que, je m'éclate dans tous les projets. Certains sont plus artisanaux, un truc sur la littérature jeunesse versus les Gémeaux. Mais pour moi, ils ont tous une importance parce que je mets autant de cœur à chaque étape. Peu importe la grosseur du projet.
T'étais-tu capable, exemple, la soirée des Gémeaux, là, tu l'as fait 2 fois, t'étais-tu capable de l'apprécier au fur et à mesure que les secondes avançaient ou c'est après, là, t'avais hâte de finir pour dire, OK, j'ai fait un bon show, ça a bien été, c'est fait, là, je peux commencer à relaxer, ou t'étais capable de l'apprécier seconde après seconde? Je t'explique ma question, je jasais avec un joueur qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey pendant plusieurs années, puis lui, ce qu'il regrettait, ben, il me l'a pas dit en onde, fait que je peux pas le dire, mais c'est un bon joueur, OK? Et ce qu'il regrettait, c'est de pas avoir été capable de vivre le moment présent. Puis il m'avait dit, peut-être 10 ans ou 15 ans après sa carrière, il m'avait dit, Yann, si j'avais la chance de revenir ne serait-ce qu'une minute pour regarder la foule puis de me dire à quel point c'est beau ce que je suis en train de voir là, puis les applaudissements, puis les enfants, puis les signatures que je faisais, si j'étais capable d'apprécier seconde après seconde, je le prendrais juste une minute puis je serais prêt à échanger beaucoup de choses pour avoir cette minute-là dans l'amphithéâtre à Québec, là. Exemple.
Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est le travail d'une vie pour l'humain d'apprécier le moment présent. Puis là, on entre dans des trucs un petit peu plus philosophiques, mais je suis convaincu qu'il n'est pas seul dans son cas. C'est quelque chose qu'on vit tous à différentes échelles, au niveau familial, dans le couple, au niveau relationnel. T'sais, vivre le moment présent, c'est pas simple. On est toujours avide de quelque chose. On est conditionné comme ça. Puis là, j'essaye de méditer des fois. J'essaye de me mettre dans un état plus contemplatif. Des fois, de ralentir le pace. Puis d'adopter une mentalité un peu plus stoïcienne. Tu sais, je regarde, il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. J'accueille ce que la vie m'envoie avec une certaine froideur. Tu sais, il y a des trucs, puis il y a des outils qui sont millénaires puis qui ont fait leur preuve dans plusieurs courants philosophiques. Fait que maintenant, c'est propre à chaque individu, mais c'est le travail d'une vie, man. Fait que je trouve que c'est une bonne opportunité pour nous de réfléchir à ça.
Ben oui.
On a besoin de faire du travail avec soi-même pour pouvoir en arriver là. Puis je dis pas que je suis rendu là, t'sais, au contraire. Là, t'sais, l'autre jour, j'ai pété une coche parce que mon lave-vaisselle est pété, ça fait 3 mois. Puis il y a un technicien qui vient ici, puis il coûte 120$ man, à chaque fois, puis il marche pas. Je suis comme, man, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, tu te dis, hey, c'est un problème du tiers-monde, ça.
Oh, oui.
C'est vraiment un problème du tiers-monde. Là. Moi, là, ouais. Petit privilégié, j'ai un toit. Je veux dire, il y a de la bouffe dans le frigo. Je gagne ma vie, puis je fais des choses que j'aime. Fait que là, je suis en train... Là, ça a pris toute la place dans ma tête. Mon lave-vaisselle, c'est comme, calme-toi, man.
Surtout que un lave-vaisselle, ça coûte 500$ aujourd'hui, puis ouais. Ça coûte rien.
Exact. Ben, c'est ça, la phase. J'ai mis tellement d'argent dessus que là... C'est comme une imprimante, tu sais. Puis je suis fâché à cause de l'obsolescence programmée. Je suis comme, ma tante, mon ex-belle-mère, je veux dire, il y a un four dans la famille, il est là depuis 1969. Il marche. Moi, je change d'électro 3 ans. Ça vous garantis, c'est de la merde. Ouais. Votre électronique dans vos machines, c'est de la merde. Je m'en crisse que la sécheuse, elle fasse un petit bruit. Je veux pas qu'elle me fasse une toune. Je veux qu'elle marche, genre 15, 20 ans. Là, ouais. C'est tout ce que je demande. Fait que tu vois, ça, c'est vraiment un... En pensant à ça, ça prend de la place dans mon esprit. C'est niaiseux. Ça l'est pas. Mais en même temps, ça m'empêche de vivre le moment présent. Fait que c'est comme, man, fais la vaisselle. Comme l'humanité a toujours fait la vaisselle. Puis prends le moment, puis dis-toi, hey man, c'est cool, de l'eau. Hey, j'ai de l'eau.
Mets-toi de la musique. Mets-toi de la musique en faisant ta vaisselle. Voilà.
J'ai fait un peu de méditation. Je suis allé faire, à un moment donné, une initiation à la technique Vipassana, qui est comme une méditation. C'est 12 jours en silence. Moi, j'ai fait une initiation à ça. C'est genre 3 jours. En silence au monastère des Augustines avec mon ami Dan Blouin que je salue. Ça a été une expérience vraiment confrontante pour le TDA que je suis. Pas de stimulation, là, t'as pas d'ordi, pas de cellulaire, rien. Tu parles à personne, il n'y a pas de regard qui se croise. 5 fois par jour, tu fais des longues méditations guidées, équanimité. Je suis heureux, je suis triste, je suis juste entre les deux. Avidité, j'essaie de déconstruire mes patterns de toujours vouloir plus, toujours vouloir quelque chose de plus, que ce soit au niveau personnel, financier, émotionnel, relationnel, et impermanence, l'impermanence des choses. Tout finit par passer. Il n'y a rien qui dure éternellement. Fait que, puis des fois, j'essaie de combiner ça avec la mentalité stoïcienne. Là, memento mori, en latin, ça veut dire « rappelle-toi ta mort ». Pense-y à chaque jour. Puis, tu sais, on vit dans une société, dans un monde où hey, on ne veut même pas faire nos préarrangements funéraires. Hey, voyons, hey, un testament notarié. Hey, je ne veux pas trop y penser. C'est comme si on se dit, plus je pense à ma mort, je vais la programmer puis je vais l'attirer plus rapidement. Elle arrivera quand elle arrivera. Puis, c'est plate. Puis, moi, j'ai envie de vivre. Pour vrai, j'aime la vie. Mais, imagine-toi, là, moi, je trouve que mon exercice personnel pour... vivre le moment présent qui fonctionne le plus. Imagine-toi, tu es dans ton cercueil, tu es sous terre, tu es mort, tu es dead. T'sais, tu vas être mort longtemps, là. On s'entend? On va être mort, là, je ne sais pas combien, de milliards d'années. Notre plus grand succès collectif, c'est qu'on va être mort un Christi de bout. Imagine-toi qu'à un moment donné, tu entends creuser dans ton cercueil en dessous de la terre, il y a quelqu'un qui ouvre la porte qui dit « Hey, Yannick, je te laisse une journée. Je t'en laisse rien qu'une. Tu fais quoi? » Mais merci, merci, je suis parti trop vite, j'ai pas eu de préavis, j'ai pas eu le temps de dire au monde à mon monde que je l'aime, j'ai pas fait telle affaire, j'ai pas été reconnaissant pour telle affaire. À tel moment, je pensais que ça allait être éternel, je m'excuse, ok, j'en vis une. Ok, c'est intense. Puis effectivement, là, je suis pas sûr que je vais appeler tous mes amis aujourd'hui pour dire « Hey, Dave, je t'aime, man, Matt, je t'aime. » Mais ça te recalibre un peu, puis ça, après ça, tu sais, repense à ça la prochaine fois que tu soupes avec tes enfants. Dis-toi que tu es dans ta journée d'extra. Peut-être que tu vas être un peu plus, smooth, tolérant, que tu vas avoir peut-être un peu plus d'appréciation pour un petit mardi. Tu sais, la vie, c'est pas juste le jour de l'an puis le 31.
Exact.
La vie, c'est aussi un petit mardi tranquille où, hey, ramasse tes affaires, nanana. La quotidienneté, mais il y a du beau là-dedans aussi.
Franchement intéressant. Puis ouais, il reste à peu près, on va faire une petite pause, il reste à peu près 2-3 minutes à l'émission. Est-ce que tu restes avec nous?
Ben oui, ça me ferait plaisir, merci.
Cool, on est en compagnie de Pierre-Yves Laure ce soir. Merci d'être là, on revient.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h45 avec Gravel et Marceau.
C'est un gars de 35 ans qui a commis des actions indécentes. À une des victimes, il a dit « ton hood m'excite ». Il s'est mis à embrasser le capot de la voiture en s'y frottant torse nu.
Ça, c'est une femme tout nue. Ça, c'est un homme tout nu. Puis ça, c'est une voiture. Alors, on reçoit notre chroniqueur automobile, Sam Tremblay-Michaud. Il écoute le Grand Prix d'Infant. Et on roule!
Le Pit Stop de Boulevard 102.1. Lundi au jeudi, 7h45.
Boulevard 102.1 vous invite à plonger dans la féerie d'Aura à l'église Saint-Roch. Une expérience immersive grandiose signée Moment Factory.
Lumière spectaculaire, projection à couper le souffle,
musique enveloppante.
L'architecture se développe devant vos yeux pour créer un tout autre univers.
Redécouvrez Québec sous un nouveau jour grâce à cette œuvre qui fait déjà vibrer le monde entier. Réservez vos billets au auraeglisesaintroch.com. Boulevard 102.1 et Aura, fiers de s'associer pour vous faire vivre votre moment magique de l'hiver.
À la recherche d'un nouveau nid? Pensez au condo locatif Le Charlie près de la rivière Saint-Charles. Comprend l'eau chaude et Internet ainsi que l'accès au gym, au lounge et à la terrasse. Visitez lecharlie.ca.
Si tu vas à l'événement d'équipement usagé de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, ben toi aussi, tu pourrais siffler en travaillant.
Besoin d'une idée cadeau? Vite, vite, vite! Achetez en ligne la carte cadeau du Charbon Steakhouse et obtenez 20 % en prime. Par exemple, vous achetez une carte à 100 $, vous obtenez 20 $ de plus. Commandez sur charbon.ca. Le Charbon vous souhaite un charbon temps des fêtes.
Chez Desjardins Autocollection, on liquide nos derniers modèles 2025. Profitez de rabais exceptionnels jusqu'à 19 000 $ sur le Mach-E avec le programme Roulez Vert, jusqu'à 11 000 $ sur le F-150 Lightning et jusqu'à 9 500 $ sur l'Escape PHEV.
Les aliments M&M vous invitent à célébrer avec de joyeuses bouchées. Jusqu'au 10 décembre, achetez deux boîtes de bouchées sélectionnées et obtenez-en une gratuite, incluant le poulet popcorn, les bouchées de chou-fleur et plus encore. Dégustation, concours et plaisirs festifs vous attendent en magasin.
Vivez dans un immeuble qui se distingue à la tête des ponts. La Forêt Québec propose des unités avec une vue exceptionnelle sur le fleuve, du studio au 5,5, ainsi qu'une formule tout inclus. Espace commun complet, commerce au rez-de-chaussée et plus. La Forêt Québec, audacieusement bien pensé.
Le Centre du camion Québec Métro, c'est votre leader en réparation de camions et de remorques de toutes les marques à Québec. En 2025, nous célébrons 30 ans d'excellence au service des professionnels de la route. Merci pour votre confiance. Nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez à la roulette, au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Cet hiver, pas question d'avoir les pieds gelés. Découvrez les bottes saute-mouton fabriquées à Québec pour affronter le froid avec style. Belles, confortables et en cuir imperméable, choisissez parmi un vaste choix de modèles. Restez au chaud tout l'hiver. Visitez saute-mouton.
Cet hiver, serre pas n'importe quoi. Serre la meilleure bière au Canada. La Flacatoune de la microbrasserie Charlevoix vient de remporter le plus grand honneur du pays. Alors, pour le temps des fêtes, goûtez les saveurs de Charlevoix avec la Flacatoune. Tchin tchin, là!
Si vous cherchez une assurance pour votre syndicat de copropriété, sachez que Desjardins Assurance assure les entreprises depuis plusieurs décennies. Vous vous demandez ce que ça change? Ben, imaginez si Gilles était le président de votre syndicat de copropriété depuis aussi longtemps.
De mémoire, selon l'article 16, alinéa 3, paragraphe 2B du règlement.
Tu connais la convention par cœur?
Ben oui, pas toi?
Ouais.
Voilà, Desjardins Assurance Entreprise, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Demandez une soumission.
Lévis Subaru remercie chaleureusement sa fidèle clientèle pour leur confiance et leur souhaite un joyeux temps des fêtes. De toute l'équipe, mille fois merci. La place pour votre prochain Subaru, c'est chez Lévis Subaru. Visitez leur inventaire neuf et usagé au levisubaru.com.
Attitude Hélicoptère offre des cours d'initiation au pilotage. Vous pourriez prendre les commandes d'un hélicoptère pendant 30 minutes ou plus. Woohoo! Plusieurs initiés témoignent du sentiment de liberté qu'ils ont vécu et certains y ont trouvé une réelle passion. Visitez attitudehélicoptère.ca.
Plomberie C. Lyonnais souhaite remercier sa précieuse clientèle pour sa confiance tout au long de l'année. Grâce à vous, 2025 a été une année remplie de beaux projets et de belles rencontres. Toute l'équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes et au plaisir de vous accompagner de nouveau en 2026.
Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec.
L'équipe de la Goélish Hôtel Resto vous souhaite des fêtes locales, lumineuses et mémorables. En 2026, inutile de prendre l'avion, vous avez juste à traverser le pont de l'île parce que Sainte-Pétronille vous attend avec sa vue imprenable sur le fleuve. Goélish, hôtel, terrasse, resto, condo, dodo.
Car ce que je veux pour la pub radio, là, c'est un concept qui fait que le monde se rappelle des pizzas Ludo. On pourrait répéter pizza Ludo, L-U-D-O.
Tu sais, l'important, c'est que le monde se souvienne qu'on fait des fichus de bonnes pizzas pis toute qu'une sauce à spag.
Pizza Ludo. Décongeler, cuire, servir.
En décembre, chez Marlin Chevrolet, obtenez 12 000 $ de rabais au comptant ou 0 % de financement sur les Blazer EV et Equinox EV. Et les membres Costco reçoivent 1 200 $ supplémentaires. Des offres électriques et solides. On vous attend chez Marlin Chevrolet, rue Frank Carrel.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
À la librairie Maison Anglaise, nous offrons les seuls voyages sans bagages, sans stress et sans décalage horaire. Vivez l'aventure du Department Q avec Jesse Adler Olson, découvrez les bases de l'alchimie avec Senli Niu ou faites un ami de votre cerveau avec Rachel Barr. Votre imagination est la seule limite. Achetez local et voyagez dans le monde entier. Pour votre prochain voyage, des milliers de titres et versions audio, anglais et espagnol, vous attendent. La Maison Anglaise à la Place de la Cité ou lamaisonanglaise.com.
Qu'ont en commun un entrepreneur, quelqu'un qui a un grand terrain, puis un agriculteur? Ben c'est tout du monde qui aime ça siffler en travaillant fort. Et pour travailler fort, ça te prend des équipements à la hauteur de tes attentes. Ça tombe bien. JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, tient actuellement son événement d'équipements usagés et une réduction d'inventaire neuf. Ils ont toutes les marques. Pis t'as aucune pression parce que l'événement dure jusqu'au 31 décembre. Pis à minuit, on souhaite bonne année parce que l'année qui vient de passer est déjà usagée. Pour plus de détails, va sur jldlagu.com.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien. Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Pierre-Yves Lard est avec nous ce soir. On est vers la fin du podcast. Merci beaucoup, Pierre-Yves Lard, de participer à ce podcast de Jazzette-là qu'on fait sur les ondes du 99.5 à Montréal et sur les ondes du 102.1 à Québec. Je pense que ça va être très apprécié de la part des auditeurs. J'ai hâte d'aller voir mes textos dans les prochaines minutes.
Ben, merci, Yannick. Merci à tout le monde d'être à l'écoute et de contribuer à faire vivre la radio. Je disais que la radio... Tantôt, j'avais des commentaires un peu durs. Ah, je sais pas si je suis optimiste envers la radio, mais en même temps, la question c'est pas l'industrie, c'est le monde qui écoute. Puis tant qu'il va y avoir des gens qui écoutent puis qui donnent de l'amour à ce média-là, puis qui écoutent attentivement, qui réagissent, qui donnent du feedback à ce qu'ils entendent, que ce soit positif ou négatif, ben on va se garder ce média-là en santé. Puis je trouve que le soir, comme ça, de pouvoir avoir des réflexions puis d'être un peu moins bousculé dans nos pensées puis dans nos échanges, c'est le fun. Le jour, des fois, on est pogné à la circulation, les nouvelles, tout, remaniement ministériel. Mais là, juste de jaser de la vie d'humains sur Terre, de parents, d'amateurs de sport, d'amateurs de plein d'affaires. Merci de créer cet espace-là de discussion, Yannick.
Le soir, on relaxe. On parlait de Québec-Montréal, parce que là, on a deux stations de radio, 99.5 puis 102.1 à Québec, et l'autre est à Montréal. J'ai jasé dernièrement avec un humoriste, P.A. Méthode, que tu dois connaître. Ouais. J'ai une de mes amies qui est chanteuse d'opéra, qui fait un petit peu carrière à Montréal, mais surtout un peu partout dans le monde. C'est une chanteuse d'opéra, fait qu'elle se promène pas mal. Comment tu as réussi à conserver un endroit à Québec tout en travaillant à Montréal? Je sais que Norman Brathwaite l'a fait aussi. Sa maison était en Gaspésie, puis quand il y avait des contrats, ben, il embarquait dans son hélicoptère, puis il allait à Montréal. Mais est-ce que c'est facile d'avoir son cœur à Québec, ses enfants et tout ça, puis faire carrière à Montréal?
Facile. J'ai la chance... Tu sais, Mélo, la mère des enfants, est extraordinaire. Elle a accepté toujours mon amour de ce métier-là et ce que ça comprenait. Fait que, tu sais, elle a toujours été première répondante pour les enfants. Là, tu vois, on est en garde partagée, puis 50-50, mais tu sais, c'est pas toujours 50-50. Puis elle est là, puis elle me back là-dedans. Fait que, oui, j'aime ça, mais grâce... Tu sais, je peux avoir la tête libre quand je m'en vais sur un plateau ou enregistrer là-bas. Puis ça, c'est quand même très précieux. Je pourrais pas faire ça tout seul avec deux enfants. Maintenant, j'aime vraiment habiter dans deux villes. Si j'avais les opportunités, les moyens, je pourrais peut-être, moi, sans joke, là, si j'avais un hélicoptère, être capable de m'acheter des résidences partout, je vivrais dans trois villes en même temps facilement. Je trouve que la vie est courte, puis d'aller prendre le meilleur de chaque ville, un peu comme... Je suis un peu guidoune, je prends le meilleur de Montréal quand je suis tanné, je reviens à Québec. Je prends le meilleur de Québec quand j'ai besoin d'adrénaline puis d'aller d'un peu plus de dynamisme dans mon domaine. Je vais à Montréal, puis je suis privilégié. Tu sais, je vis dans la maison où j'ai grandi à Québec, j'ai racheté la maison de mes parents. Puis à Montréal, je vis au Novia, en fait, à Longueuil, qui est un endroit extraordinaire, man. C'est des condos locatifs juste à côté du métro. Il y a une piscine, une terrasse, des aires communes. J'adore le Novia, puis KO TV, Louis Morissette, ça, ils ont leur studio là-bas. Fait que tu sais, j'ai un setup le fun. J'aime le transport en commun, train, autobus. Des fois, je prends mon char. Puis, fait que j'adore les deux villes. Sans joke, je me pince, mais pour moi, c'est un rythme de vie qui, pour certains, peut paraître exigeant. Ah, man, tu fais la route. Aïe, 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 c'est loin. Mais t'as peu, là, quelqu'un qui vit